Aujourd'hui, on est là pour entourer les étudiants qui finissent leur première année, les étudiants qui finissent tout le cursus des 4 années, les étudiants qui ont suivi les cours en... Les amis, j'espère qu'au terme de votre première année ou au terme de vos 4 années, vous avez plein de rêves. Vous avez le rêve que Dieu vous utilise puissamment. Vous avez le rêve de pouvoir vivre un service fructueux pour la gloire de Dieu. Et bon, la Bible, quand la Bible parle du service dans l'Église, du service pour Dieu, souvent elle utilise ce mot, le mot de ministère. Ce matin, on va parler un tout petit peu de cette question-là. On va parler un tout petit peu du ministère. L'apôtre Paul, c'est probablement un des hommes dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Église, c'est probablement un des hommes qui a eu le ministère le plus fructueux. Il a implanté de nombreuses églises. Il était l'apôtre des non-juifs. Il a formé des leaders d'église. Il a formé des missionnaires. Il est allé prêcher l'évangile jusqu'aux confins de l'Empire romain. Ministère fructueux. Mais de l'autre côté, parallèlement à cela, l'apôtre Paul est aussi probablement l'un des hommes qui a eu le ministère le plus difficile. Il a été battu, il a été fouetté, emprisonné, lapidé. Il nous dit qu'il a été partout en danger. Il nous dit qu'il a été de tous persécuté. Il a été parfois même affamé, assoiffé. Il a été, en plus de tout ça, en perpétuel souci pour les églises. Et il est mort martyr. Si on devait résumer la vie ou le ministère de Paul, je pense que ces deux termes qualifieraient bien son ministère, fructueux et difficile, à la fois fructueux et difficile. On pourrait dire que le ministère de Paul auprès de l'église de Corinthe, tout particulièrement, reflète bien ces deux aspects. Le livre des Actes, au moment de l'implantation de l'église de Corinthe, le livre des Actes nous rapporte que beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. Ministère fructueux. Mais en même temps, les relations entre Paul et cette église seront difficiles. Paul va pleurer en écrivant des lettres à cette église. Et les chrétiens de Corinthe vont pleurer eux aussi parfois en recevant ces lettres. Ministère difficile. Si vous lisez d'affilée les 7 premiers chapitres de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul parle de ce ministère. Il parle de ce ministère fructueux et difficile qu'il a eu avec les Corinthiens. Ces 7 chapitres du début de 2 Corinthiens, ils forment un petit peu 3 blocs. Premier bloc, Paul montre à quel point il a été angoissé à l'extrême à cause des Corinthiens. Troisième bloc, Paul montre comment il a été réconforté à l'extrême en entendant de bonnes nouvelles des Corinthiens par Tite. Et entre les deux, entre l'angoisse et le réconfort, Paul écrit 4 chapitres. 4 chapitres pour parler justement du ministère qu'il a eu auprès des Corinthiens. Et il étend cela pour parler du ministère, de son ministère en général. Ce ministère, il l'appelle la bonne odeur de Christ. Il l'appelle le ministère de l'Esprit, le service d'une nouvelle alliance, le ministère de la justice et bien d'autres, de bien d'autres manières. Ce ministère, Paul, il le décrit donc dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 1 jusqu'à 5, verset 10. C'est le texte qu'on va lire tout de suite. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans 2 Corinthiens. Si vous n'avez pas trouvé 2 Corinthiens, vous allez dans le Nouveau Testament, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et vous y êtes. Vous êtes sur 2 Corinthiens. Et ensuite, vous allez au chapitre 4 à partir du verset 1. Et je vais simplement prier avant de faire la lecture de ce texte. Mais je vous laisse chercher. Prenez votre temps pour chercher. Seigneur, on a besoin de ton secours. On a besoin de ton esprit pour comprendre ta parole maintenant. On a besoin que tu nous montres comment vivre ta parole au quotidien. On t'en supplie, Seigneur, transforme-nous, humilie-nous par ta parole maintenant. Je te demande ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Vous l'avez tous trouvé ? C'est bon. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi, par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un texte assez long, un texte extrêmement riche, et je vais juste prendre quelques minutes pour essayer d'expliquer un petit peu ce texte. Comment il est, ce ministère ? Dont Paul parle dans ce texte. Comment il est ce ministère de Paul ? Paul donne trois caractéristiques. Premièrement, c'est un ministère de prédication. Deuxièmement, c'est un ministère de souffrance. Et troisièmement, c'est un ministère de gloire. Premièrement, un ministère de prédication. Paul rejette, vous avez vu dans le texte, hein, il rejette ce qui est honteux, ce qui est secret. Il n'use pas de ruse, il ne falsifie pas la parole de Dieu. Au contraire, il fait connaître la vérité. Il explique l'évangile de manière claire, de telle sorte que seuls ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde ne le voient pas. Paul écrit qu'il prêche le Seigneur Jésus-Christ. À l'origine de ce ministère de prédication, il y a Dieu qui a fait briller sa lumière dans son cœur afin qu'il resplendisse de la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Un ministère de prédication, et plus précisément, un ministère de prédication de Christ, ou un ministère de prédication de l'Évangile. Ça fait un peu pompeux hein, de parler d'un ministère de prédication. Je ne sais pas ce que vous trouvez. Hein. On a l'impression que c'est des mots compliqués pour parler de quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. On doit se poser la question, qu'est-ce que les Corinthiens comprenaient quand Paul parle du ministère de la prédication ? Aujourd'hui, si on évoque quelqu'un qui a le ministère de la prédication, on pense à des gens qui parlent de manière incompréhensible et interminable dimanche matin. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour les Corinthiens ? Eux, ils avaient l'exemple de Paul. Donc quand Paul leur parle d'un ministère de prédication, ils pensent très probablement à l'exemple de Paul. Et comment Paul avait-il exercé son ministère de prédicateur à Corinthe ? Quelques éléments. Premièrement, Paul n'a jamais été à plein temps, il n'a jamais été rémunéré par cette église de Corinthe. Au contraire, il exerçait son métier pour subvenir à ses besoins. À Corinthe, il nous dit qu'il n'a jamais utilisé l'éloquence pour convaincre ses auditeurs. À Corinthe, il n'a jamais joué le jeu de ses super apôtres. Il y avait des super apôtres qui étaient venus à la suite de Paul dans l'église. Il n'a jamais joué le jeu des super apôtres. Au contraire, à Corinthe, vous savez ce que les Corinthiens disaient de Paul ? Ils disaient « Ses lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent, il est faible et méprisable. » D'ailleurs, avec les super apôtres, Paul a peur que les Corinthiens se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ. Bref, quand les Corinthiens entendent Paul parler du ministère de la prédication, ils n'ont pas en tête un super pasteur, ils n'ont pas en tête un orateur qui harangue les foules, mais plutôt un gars qui présente avec simplicité l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être même qu'il le fait juste après le boulot ou pendant le boulot, pendant qu'il était en train de coudre ses tentes. Certes, Paul était un grand connaisseur de l'Ancien Testament, un érudit. Mais ce n'était peut-être pas un grand prédicateur tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Donc premier point, un ministère de prédication. On passe au deuxième point, un ministère de souffrance. Probablement un point qui est un peu plus inattendu que le premier. Et Paul ne dit pas simplement qu'il a souffert. Il ne dit pas non plus que certains souffriront. Il ne dit même pas que la souffrance est un petit peu un passage obligé dans le ministère. C'est un petit à côté du ministère. On doit s'en accommoder, on doit essayer de s'en débarrasser. Non, ce que Paul nous dit, c'est que la souffrance fait partie intégrante de ce ministère. Nous sommes, dit Paul, des vases de terre. Pressés, inquiets, persécutés, abattus. Pourquoi ? Pour que la puissance extraordinaire de l'Évangile soit attribuée à Dieu et non à nous. En fait, Paul donne trois raisons pour comprendre le sens de la souffrance dans le ministère. Première raison, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est que la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Deuxième raison, c'est que les disciples de Jésus portent dans leur corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit reflétée dans leur corps mortel. Et la troisième raison que Paul mentionne dans ce texte, c'est de nous faire regarder à la résurrection. Paul montre qu'il est tout à fait utile, tout à fait nécessaire que la souffrance soit présente dans la vie chrétienne. Et en particulier, Paul montre qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre ce que notre maître a vécu, mourir pour donner la vie. Hein, ce que Paul écrit, c'est que nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit révélée dans notre corps mortel. Évidemment, Paul ne parle pas de la mort physique. D'ailleurs, il écrit, hein, « La mort est à l'œuvre en nous ». Donc si Paul était physiquement mort, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il écrivait encore drôlement bien pour un mort. En fait, Paul parle ici de la mort à lui-même. Cette mort pour laisser Christ vivre en lui, pour laisser Christ se révéler dans son corps mortel. Je trouve que cet argument de Paul est extrêmement fort. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Par nature, nous sommes opposés à Dieu, en guerre contre Dieu. Et par conséquent, nous sommes destinés à la juste colère et au juste jugement de Dieu. Non pas parce que Dieu serait méchant, mais parce que nous sommes méchants et parce que nous méritons cela. Mais Jésus est mort, lui le juste pour nous les injustes. Il est mort en rançon pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés, réconciliés avec Dieu. Jésus allait jusqu'au bout. Et par imitation, nous aussi, nous devons aller jusqu'au bout pour présenter Jésus au monde qui nous entoure. C'était notre deuxième point, un ministère de souffrance. Troisième point, un ministère de gloire. Après la prédication, après la souffrance, Paul présente un ministère de gloire. Cette gloire qui est une profonde motivation pour la prédication et pour la souffrance. Paul nous fait regarder au-delà des réalités terrestres actuelles. Ce qui nous attend, au-delà des réalités terrestres actuelles, ce sont un poids éternel de gloire. Ce sont des réalités invisibles éternelles. Ce sont un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, un domicile céleste, une patrie. Voilà ce qui nous attend. Voilà la gloire qui nous attend. Nous ne devons pas nous focaliser sur les souffrances, mais sur l'éternité. Une éternité dans la présence du Seigneur pour tous ceux qui croient, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est un ministère glorieux, car notre prédication vise justement à communiquer l'Évangile. Nos souffrances visent justement à révéler la vie de Jésus, et cela amènera des hommes et des femmes à rentrer eux aussi dans cette gloire. Un ministère de gloire. On a vu donc maintenant ces trois composants dans ce texte, la prédication, la souffrance et la gloire. J'aimerais encore faire deux remarques. Première remarque, quelques mots au sujet du ministère. Le ministère, c'est un service. J'ai utilisé le mot ministère tout au long de cette prédication jusqu'ici. J'ai choisi d'utiliser ce mot parce que c'est le mot que Paul utilise. Mais dans notre culture, il faut le reconnaître, un ministre, c'est plutôt un responsable du gouvernement, n'est-ce pas? Du coup, on a l'impression qu'un ministre ou un ministère, ça désigne plutôt un homme ou une fonction de grande importance. Et du coup, on serait tenté de dire, ok, Paul était ministre. On pourrait même se dire, allez, à la limite, peut-être que les pasteurs sont des ministres. Allez, on pourrait peut-être aller jusqu'à se dire que peut-être ceux qui ont reçu leur certificat ou leur diplôme aujourd'hui, ou qui vont recevoir leur certificat ou leur diplôme aujourd'hui, peut-être eux, ce sont des ministres. Mais franchement, moi, je n'ai pas l'impression d'être un ministre. Je n'ai pas l'impression d'avoir un ministère. Et peut-être que vous pensez ça ce matin. Vous vous dites que tout ce que je viens de dire depuis le début, ça ne vous concerne pas. Peut-être même que vous vous dites que cette prédication, en fait, j'ai choisi de l'adresser aux étudiants parce que voilà, ils sont un petit peu à l'honneur aujourd'hui, mais que ce n'est pas votre problème. Si vous pensez ça ce matin, je dois vous le dire, vous avez tort. Le ministère, c'est simplement un service. Et le ministre est simplement un serviteur. Et nous sommes tous et toutes des ministres de l'Évangile, nous qui sommes chrétiens. Nous avons tous un ministère à accomplir. Bien sûr, dans ce texte de 2 Corinthiens, Paul parle de son propre ministère, mais les principes sous-jacents seront les mêmes pour n'importe quel chrétien aujourd'hui. Peut-être que vous vous dites, moi, je ne suis pas un prédicateur. Ça tombe bien, parce que ce que Paul nous dit ici, c'est que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Peut-être qu'on ne prêche pas tous depuis une chaire, devant une assemblée, mais nous devons tous, comme Paul, faire connaître clairement la vérité autour de nous. Prêcher Christ par tous les moyens. Notre bouche doit proclamer l'Évangile. Peut-être que vous dites, Moi, je suis personne. Moi, je suis insignifiant. Ça tombe bien. Paul nous dit que nous sommes des vases de terre. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes glorieux. C'est le message qui est en nous. C'est le message que nous prêchons qui est glorieux. Peut-être que vous vous dites, mais moi, je n'ai pas la force de vivre la souffrance. Ça tombe bien. Paul nous dit, nous sommes pressés, mais jamais écrasés. Inquiets, mais jamais désespérés. Persécutés, mais jamais abandonnés. Abattus, mais jamais anéantis. La souffrance est nécessaire, mais la souffrance ne nous anéantit pas. Du coup, nous pouvons affronter la souffrance avec confiance. Peut-être que vous vous dites, j'ai trop de problèmes actuellement dans ma vie pour être un ministre. Ça tombe bien. Paul écrit, les légères difficultés du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Peut-être que vous vous dites même, moi je préférerais quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Ça tombe bien. C'est exactement ce qui nous motive à tout faire pour lui être agréable. C'est ce que Paul écrit, hein. Nous savons que nous comparaîtrons tous devant son tribunal. Ce désir d'être auprès du Seigneur après nous motive à lui obéir maintenant. Nous avons tous à vivre ce ministère. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, ce ministère dont parle Paul ici, il a un sens, il a un but. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la prédication, c'est Jésus-Christ qui est prêché. Pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ qui est prêché. Dans la souffrance, nous vivons l'agonie de Jésus. Nous mourons pour transmettre la vie. Nous souffrons l'évangile, si je puis dire. Ce n'est pas juste que nous souffrons pour l'évangile ou que nous souffrons à cause de l'évangile. Nous souffrons en fait les souffrances de l'évangile. Nous souffrons l'évangile. Quant à la gloire, elle est fondée sur l'évangile. Nous ne serons plus dans une tente. Nous ne serons plus nus, nous dit le texte. Nous habiterons une maison qui sera bâtie par Dieu. Nous serons revêtus afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et nous avons reçu comme gage de tout cela l'Esprit. Notre gloire à venir est fondée sur l'Évangile. C'est en fait la gloire de l'Évangile que nous recevons. Prédication de l'Évangile, souffrance de l'Évangile, gloire de l'Évangile. Ce que Paul est en train de présenter ici, c'est le ministère de l'Évangile. Voilà le ministère que nous devons vivre. Le ministère de l'Évangile, un ministère de prédication, de souffrance et de gloire. On a étudié ce texte. J'espère qu'on a tous une compréhension assez claire de ce que Paul nous dit ici, comment il nous montre ce que doit être notre vie chrétienne, notre ministère. Seulement, nous n'étudions jamais la Bible pour des raisons intellectuelles seulement. On veut toujours être transformé. Alors comment est-ce qu'on peut être transformé par ce texte ce matin? Peut-être que ce matin, vous êtes venu, peut-être que vous avez subi ce culte jusqu'ici sans en comprendre grand-chose. Peut-être que vous êtes juste venu soutenir votre pote ou votre cousin ou votre frère qui va recevoir son diplôme tout à l'heure. Peut-être que vous ne savez rien de la Bible. Peut-être que vous n'avez pas particulièrement envie d'entendre parler de l'Évangile. Si c'est votre cas ce matin, ne laissez pas l'occasion de voir briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ. Christ est mort pour nous donner la vie, nous l'avons lu, pour nous donner un domicile céleste, nous l'avons lu aussi, pour nous donner une patrie, nous l'avons lu, pour nous ressusciter, nous l'avons lu. Vous pouvez recevoir tout cela et vous n'avez rien à faire pour le recevoir. Mais Dieu, qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans le cœur de Paul et dans le cœur de nombreuses personnes dans cette salle pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. En fait, il y a plein de vases de terre remplis de la puissance de l'Évangile dans cette salle. Plein de ministres, plein de prédicateurs de l'Évangile. Alors si vous n'avez rien compris jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Mais allez poser des questions, interrogez les étudiants, interrogez d'autres personnes dans cette salle. Il se peut que vous trouviez plus que des réponses. Il se peut que vous trouviez une nouvelle vie. Il se peut que vous deveniez vous aussi des ministres de l'Évangile. Peut-être que ce matin, vous êtes venu, vous êtes chrétien depuis déjà quelque temps, peut-être même des années, et peut-être que ce matin, en fait, vous avez découvert que vous êtes ministre de l'Évangile par la prédication, la souffrance et la gloire. Si c'est votre cas ce matin, ce texte nous dit que nous devons exercer notre ministère de prédication de l'Évangile. On ne doit pas se prêcher nous-mêmes, mais nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous avons tous et toutes cette tâche, présenter le message de l'Évangile autour de nous, par tous les moyens possibles, à nos voisins, familles, collègues, amis. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes des ministres de l'Évangile auprès d'eux. Et ça nécessite que nous soyons prêts à expliquer ce message. J'aimerais vous donner un devoir pour cela, un devoir écrit, hein, à faire cette semaine. Et je vais contrôler chez chacun si ça a été fait. Ce devoir, c'est simple, hein. Écrivez le message de l'Évangile avec vos propres mots. Peut-être sur une page à quatre ou une demi-page à quatre, quand même avec plusieurs phrases. Écrivez ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection et écrivez aussi les implications qui en découlent pour votre vie. Et puis une fois que vous aurez écrit ça, prenez le temps de lire ce que vous avez écrit à un ami, quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience en tant que ministre de l'Évangile que vous, quelqu'un qui va vous faire des retours. Il ou elle va peut-être vous suggérer quelques modifications à faire, quelques ajouts. Comme ça, vous serez de plus en plus, nous serons de plus en plus équipés pour vivre notre ministère de prédicateur de Jésus-Christ. Comme ça, on sera un peu plus à même d'exercer ce ministère de prédication de Jésus-Christ. Finalement, peut-être que ce matin, vous faites partie des certifiés ou des diplômés. J'aimerais quand même dire un petit mot pour vous, particulièrement. Vous venez de passer un an ou quatre ans, pour les plus chanceux, à l'IBG. C'était le rêve, hein. Franchement, je regrette ça, c'était trop bien. J'espère que vous avez bien profité. Maintenant, vous sortez de là et vous allez retrouver en fait votre vie normale. Vous allez peut-être retrouver une vie d'église que vous avez quittée il y a quelque temps. Peut-être que vous allez retrouver un contexte professionnel. Peut-être que vous allez retrouver une vie de famille telle que vous la viviez avant. Dieu seul sait ce que vous allez faire. Mais souvenez-vous de cela. Vous êtes des ministres. Et en tant que ministre, la souffrance va faire partie de votre vie. Et j'aimerais simplement vous encourager pour terminer, comme Paul nous encourage dans ce texte. Vous avez remarqué, par deux fois, Paul écrit « ainsi donc » ou « voilà pourquoi nous ne perdons pas courage ». Nous ne perdons pas courage. Les difficultés seront au rendez-vous. Souvenez-vous, souvenons-nous que nous devons mourir pour que Christ se révèle en nous. Souvenons-nous que la résurrection et la gloire sont devant nous. Souvenons-nous que de notre cœur resplendit la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Souvenons-nous aussi que nous sommes des vases de terre et que nous contenons le trésor le plus important, le plus puissant que l'univers ait jamais porté, l'Évangile. Nous ne sommes rien. Mais Dieu est tout et il peut révéler la vie de Jésus dans nos corps mortels. Alors quand vous passerez, quand nous passerons, et ça arrive régulièrement par des temps de découragement, par des temps de difficulté, ne perdons pas courage. Soyons des ministres de l'Évangile par la prédication, la souffrance et la gloire. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte que Paul nous a laissé. On veut te remercier pour ce privilège d'être des ministres de l'Évangile autour de nous. Et on veut te demander de nous aider à vivre ce ministère pleinement, de nous engager dans la prédication de l'Évangile, de vivre la souffrance de l'Évangile et de nous réjouir de la gloire de l'Évangile. Seigneur, je te prie que tu puisses nous utiliser, que tu puisses faire ta gloire en nous et que tu puisses permettre à nombre d'hommes et de femmes autour de nous de rentrer dans cette nouvelle vie par ce ministère. Je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.